Il a donc des qualités de brillance étonnantes, des ressources et une énergie tout à fait hors du commun. Sa vocation est née, enfin, si l'on peut dire, elle a surgi, tout surgit en lui, suite à deux grands événements. D'abord, il a vu mourir quelqu'un en duel, un de ses amis, devant lui, tué en duel. Et puis, un violent orage où il a failli mourir. Et alors, ces deux événements qui l'ont profondément impressionné ont, comme dit l'autre, non pas attiré, mais emporté Luther vers la vocation. Il commence sa vie religieuse chez les Augustins de stricte observance, avec sérieux, régularité, probablement avec ferveur. Sans doute goûte-t-il quelques joies dans le jardin de la spiritualité de l'Église, sans aucun doute à ça. Hein. Mais toujours inquiet, toujours troublé, toujours inquiet surtout, sur lui-même. À 25 ans, intellectuellement, il est très fort, il est professeur à l'université de Wittenberg. À 29 ans, il est docteur en sacrée théologie et on le charge peu après, sans doute imprudemment, d'être maître, donc, en quelque sorte plus qu'un titulaire de chaire. Son naturel fiévreux fait que dans les discussions où il est forcément un réformateur, il est contre la décadence, hein, il s'emballe volontiers, il devient arrogant, en tout cas il est toujours zélé. Et il se moque beaucoup des arguments classiques des théologiens qui sont autour de lui, puisqu'il a été victime de la mauvaise formation du clergé à l'époque. Il s'est écarté de saint Thomas pour se rapprocher de la décadence scolastique. Donc, il a été formé mal formé à l'école d'occamistes, donc de gens qui sont des disciples Guillaume d'Occam, qu'on appelle le nominalisme, donc les mots et les idées sont très intéressants, mais ne correspondent pas toujours à la réalité. Donc, il n'y a pas une recherche sérieuse de vérité réaliste, ou pas autant que cela devrait être. Sa vie intellectuelle est très agitée, mais sa formation intellectuelle est très légère, au fond. Ses bases... Pas du tout un thomiste, vous voyez. Et pas du tout. Il n'a pas du tout été formé comme ça. Il a été formé plutôt à ironiser sur les thomistes du XIIIe siècle. Et là, nous sommes dans l'humanisme du début du XVIe. Sa vie spirituelle est fort émotionnelle. Il semble d'abord, dans ses exercices spirituels, rechercher les consolations sensibles, s'attacher au goût expérimental de la piété, alors que ces choses, comme on sait, comme vous savez, ne sont pas le but, mais le moyen de se rapprocher de Dieu. Pour Luther, la question, c'est de se sentir en état de grâce. Ça, c'est très important. Il aime savourer en quelque sorte sa propre sainteté. Dès l'origine, sa vie spirituelle est un peu désaxée. Dès l'origine, elle est... Oui. Le sujet humain, lui, devient en fait pour lui plus intéressant que Dieu. Son ressenti spirituel, magnifique. Et la certitude presque émotionnelle de la proximité avec Dieu, c'est la grande préoccupation. Il faut ressentir la présence divine. Sa principale consolation intérieure, c'est ça. Il la recherche pour elle-même, alors que nous savons que dans la vie spirituelle, les impressions sont changeantes, presque volatiles, que les consolations sensibles sont abondamment données au commençant, et Luther en a reçu sûrement au début de sa vie spirituelle, de ses consolations, mais... Une fois que l'âme avance et est davantage ancrée en Dieu, ses consolations sont beaucoup moins nombreuses. Dieu le suspend ses dons, comme dit saint Ignace de Loyola, avec son sens de la justesse habituelle. Luther se faisait plaisir avec Dieu plutôt qu'il ne plaisait à Dieu. En outre, pour parvenir à la perfection, il s'appuyait beaucoup plus sur ses propres efforts, ses pénitences personnelles, les œuvres de sa propre volonté, que sur la grâce. Une sorte de, il est dans une sorte de crispation, scrupuleuse souvent, s'attache à tous les petits détails pour tout contrôler dans la vie spirituelle. Il s'étudie à acquérir une sainteté d'où soit exclue toute trace de faiblesse humaine. En Luther, il y a quelque chose d'un regard d'orgueil jeté par l'âme sur elle-même. Par exemple, après une faute, il est désolé jusqu'à l'excès. Désolé davantage pour lui-même que pour Dieu, du reste. Tandis qu'après une bonne confession, le voilà meilleur que tous les autres, exalté. Il est au septième ciel, quoi, déjà. Oui, il y a de l'excès, il y a beaucoup de passion humaine dans cette jeune âme à laquelle il faut rendre justice de sa générosité, de son ardeur au début de sa vie dans l'ordre mendiant des Augustins. Mais arrive ce qui doit arriver, la nuit des sens, c'est-à-dire que vraiment les consolations spirituelles n'y sont plus dans sa vie spirituelle. Comme toute personne qui avance dans la vie spirituelle intérieure, ne perd d'une manière ou d'une autre, plus ou moins, vite ou pas vite, perd une bonne partie des consolations. C'est la nuit des sens, bon, un mot un peu effrayant. C'est l'évolution classique d'une vie spirituelle normale. Mais Luther est bouleversé. Il perd ses consolations spirituelles ressenties. Et c'est un océan d'angoisse qui prend la place pour cet hypersensible, sans doute isolé dans sa tour d'ivoire spirituelle, j'imagine. Cette étape pourrait être sa nuit purificatrice. Hein. C'est le moment de choisir, il sent plus rien, son destin. Est-ce qu'il va se quitter lui-même? Est-ce qu'il va se jeter dans l'abandon à Dieu? Est-ce qu'il dit à son cœur troublé le grand mot de saint Augustin, vis fugere ad Deo, fugare Deum? Est-ce que tu veux fuir Dieu? Tu veux fuir Dieu? Jette-toi en Dieu. Eh bien non, malheureusement, il va se jeter, s'enfuir dans l'action et pas en Dieu. Il s'étourdit d'un labeur universitaire accablant, portant un nombre incroyable de charges professorales notamment. Et il écrit bientôt, au sujet de lui-même, « Il me reste rarement le temps entier de réciter mes heures et de dire la messe. » Aveu tragique pour tout prêtre, et qui nous stupéfait même, venant sur les lèvres d'un Augustin de stricte observance. Il n'a même pas le temps de terminer son bréviaire et de célébrer sa messe. Or, la nature a ses faiblesses, et on les a tous. Et sans le fortifiant d'une vraie vie spirituelle régulière, on sait que les faiblesses prennent le pouvoir en l'homme. Quand les faiblesses deviennent fortes, sans le contrefeu de la vie intérieure, l'homme fléchit ou ne tardera guère à fléchir et à flancher. C'est ainsi qu'au bout de 3 ans à ce rythme, il écrit à son vicaire général de l'ordre des Augustins pour l'Allemagne, en plan à l'Allemagne, le père Staupitz, donc son supérieur, disons, son ordinaire, son supérieur direct. Il écrit ceci: « Je ne suis qu'un homme sujet à me laisser entraîner par la société, l'ivrognerie, les mouvements de la chair. » À cette époque, il déclame dans un sermon sur l'état de mariage: « Je n'ai pas en moi ce qui est nécessaire pour vivre dans la continence. » Est-ce que Luther est tombé dans quelque lourde faute extérieure lors d'un moment de crise? Peut-être, probablement, ou peut-être pas, qui le saura. En revanche, il est tombé intérieurement, il a désespéré de la grâce, n'ayant plus utilisé avec fidélité les moyens de la grâce. Son bréviaire, son oraison, son chapelet, sa messe, et toutes ces choses que l'on fait en pareille circonstance. Quand un homme commence à tomber, bien entendu, Satan lui souffle à l'oreille: « Tu n'y arriveras jamais, tu vois bien. » Consens donc à ce que tu es, ange manqué. Ça, c'est une formule de Maritain. Consens donc à ce que tu es, ange manqué. Ton office est de mal faire, puisque ton être même est mauvais. C'est la tentation contre l'esprit. Elle dépasse tout autre en radicalité et en gravité si on y cède. Ce processus, malheureusement, se poursuit. Et par ce genre de tentation décisive de désespérance, Luther se laisse, hélas, emporter. Désormais, il considère que la concupiscence, hein, la chair, les tentations charnelles, la concupiscence est semblable à un géant invincible auquel on peut bien résister un peu, mais qui finit toujours par terrasser son adversaire, c'est-à-dire l'âme chrétienne. Ça, c'est une formule de moi, pas mal. Il commence déjà à prendre son cas pour une généralité. La concupiscence est irrésistible. C'est ça qu'il va bientôt dire. Là-dessus, toujours assoiffé de délivrance, de certitude d'être uni à Dieu, il lit l'Évangile et il lit saint Paul. Mais sa lecture est déformée par cette crise intérieure. Et il reste dans ce... il part plutôt dans cette idée que le péché originel n'est pas effacé, que l'homme demeure au fond de lui-même corrompu, mauvais. Mais à la lecture de l'Évangile, saint Paul aussi, surtout l'Épître aux Romains, voici que le Christ a payé pour l'homme par sa passion. La justice du Christ recouvre l'homme. Il est juste, le Christ, à notre place. Telle est la solution, la justification de l'homme extérieur. L'homme reste péché au fond de lui-même, mais la justification et la grâce, pardon, ne donnent pas à l'âme une vie nouvelle, mais elle permet à l'âme d'être recouvert du manteau de la justice et de la grâce du Christ. Pour être sauvé, donc, il n'y a rien à faire. Au contraire, vouloir coopérer à l'action divine ou vouloir se corriger, c'est manquer de foi. Avoir la foi, c'est croire que le sang du Christ va tout balayer, que la grâce du Christ va tout recouvrir. La solution à son dilemme, il la trouve par ce raisonnement. Psychologiquement, pour Luther, le ciel s'ouvre à nouveau. Adieu les tourments, plus de remords scrupuleux. Les œuvres sont inutiles, absolument. Le fond de l'âme est vicié. L'homme, il est déchu. Il ne peut faire que des actes mauvais. Le salut vient de la foi seule, c'est-à-dire considéré comme une totale confiance dans le Christ, sauveur des âmes, indépendamment des vertus ou des vices qu'on peut avoir. Luther formule sa célèbre exhortation, Pecca fortiter et crede firmius, pêche fortement, mais crois plus fortement encore, et tu seras sauvé.